Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, et surtout bonne et belle année. Et merci de nous être si fidèles. Bienvenue en public au Théâtre de l'Alliance Française pour un masque et la plume consacré en ce début d'année à l'actualité littéraire avec les agents de la sérotonine que sont Patricia Martin des petits matins du week-end de France Inter, avec Arnaud Vivian de Transfuge, de Regard, mais également de la revue Charles qui va bientôt reparaître, avec Jean-Claude Raspienjas de La Croix et avec le respectable, honorable Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française. On parle ce soir de quelques titres parmi les 500 nouveautés de cette rentrée littéraire d'hiver. Ce sont les livres de Michel Houellebecq, Simon Liberati, Gilles Leroy, Jean Rouault et, pour le bonheur de Patricia, d'Elena Ferrante.
Tu l'as dit, grand bonheur.
Absolument, oui, on passe ça. J'attends que tu en parles. Dans le courrier de la semaine, on commence, c'est rare, par une salve de merci. Rodolphe Koster, qui est DJ à Bruxelles, rentre à la maison vers minuit et lance le podcast du masque en cuisinant, veut nous remercier d'avoir mis en avant le roman de Pauline Delabroix-Allard, « Ça raconte Sarah ». Chez Minuit, ce livre est sublime, nous dit Rodolphe Koster. Un livre sur l'alcool, sur le sexe, sur la musique, sur l'excès à l'intérieur de la langue française. Heureusement qu'il y a des artistes comme Pauline, parce que maintenant il l'appelle Pauline, son nom de famille étant, nous dit-il, chiant à retenir. Axel Michon de Paris, lui, nous remercie pour des conseils délivrés en fin d'émission sans lesquels je n'aurais jamais découvert les livres très différents mais admirables que sont L'homme qui aimait les arbres de Jean-Marie Borzex, Les belles ambitieuses de Stéphane Hoffmann ou même La stricte observance de Michel Onfray. Permettez-moi de vous remercier encore davantage, car grâce à vous, la libraire dont je suis amoureux depuis des années et qui me prenait jusque-là pour un inculte, s'apercevant au fil des lundis et de mes achats que j'étais un auditeur assidu du Masque et la Plume, a miraculeusement commencé à daigner me regarder.
C'est très modianesque, ça,
c'est...
non?
Oui, c'est même très contemporain. Stéphane Duménil-Guillaume, dans le Calvados, près de Lisieux, nous remercie également d'avoir conseillé le livre de Borzex, L'homme qui aimait les arbres, que j'ai beaucoup apprécié, même si je préfère, in fine, celui de Jean Giono. On peut pas lui donner tort. Et il nous conseille le roman, je sais pas si vous l'avez lu, de François Roux, Freaking, radioscopie de l'Amérique de Trump chez Albin Michel. Non, vous l'avez pas lu. Georges Kirtava, des environs d'Albi, fidèle et auditeur du masque, nous invite à lire une petite perle de littérature, Le Syrien du 7e étage de Wafaz Hussein, au serpent à plumes. Un Kurde de Syrie qui compte sa vie quotidienne, son inquiétude pour son pays dans sa tour de Babel du 20e arrondissement de Paris. En revanche, une salve de gens qui ne nous remercient pas, notamment d'avoir utilisé comme Marion Amadieu au Masque et la Plume les expressions page-turner et storytelling dans les 10 premières minutes du Masque littérature. Et Marion nous dit « Je migre au Québec ». Françoise Paviot s'insurge également. Les critiques du masque pourraient-ils parler français? Je ne sais pas ce que c'est qu'une storytelling. Pas la peine de critiquer les auteurs si vous-même n'êtes pas fichu. Tu entends, Arnaud, de parler correctement notre langue qui est belle et riche. Enfin, ça c'est une question que nous pose Werner von Braun. Je ne sais pas si ça ne me dit rien dans la production récente, mais peut-être qu'il a raison. Et il nous pose la question suivante. Bonjour, cher Masque et la Plume. Sauriez-vous combien touche un auteur et son éditeur chaque fois qu'il écrit le mot Starbucks dans son roman? Que ce soit des auteurs actuel, anglo-saxon ou français, il y a partout maintenant des Starbucks dans chacun de ses bouquins. Tous les héros boivent des cafés dans des Starbucks. Ça ressemble vraiment à un matraquage commercial grossier qui discrédite les écrivains et leurs éditeurs. Ça vous dit quelque chose, ça, cette présence massive de Starbucks dans les... Non ?
Non, mais ça ressemble à du placement produit au cinéma.
Dans les années 50, il y avait beaucoup le café de Flore, hein, dans les romans.
C'était un peu plus chic.
Oui, c'était plus chic. Je sais pas si c'était pas du placement produit à l'époque.
C'était pas beau Starbucks dans un roman. T'as vu qu'on l'a prononcé 6 fois, j'ai droit quand même à toucher un peu de royalties à la fin de l'émission. On parlait donc de la présence de Starbucks dans les romans contemporains. Allez, 4 ans après Soumission, voici donc le nouveau roman de Michel Houellebecq, Sérotonine, tiré chez Flammarion à 320 000 exemplaires, il faut quand même le préciser. Le héros, Florent-Claude Labrouste, est un ingénieur agronome de 46 ans, employé au ministère de l'Agriculture, en couple avec une japonaise de 26 ans, et il se meurt de chagrin. Il doit sa survie à un médicament, le Captorix. Vous le connaissiez, vous, les uns et les autres, le Captorix ?
Non, mais il n'existe pas. Hein.
Qui stimule la production de sérotonine, qui, elle, existe bien, une hormone liée à l'estime de soi, et il décide de disparaître. Là, je ne parle pas du médicament, je parle du héros. D'abord, dans un hôtel Mercure à Paris. Paris, cette ville, là, je cite, « infestée de bourgeois éco-responsables me répugnait », dit le narrateur. Et puis, dans une région que je connais bien, puisque c'est la Basse-Normandie, enfin, ce qu'on appelait avant la Basse-Normandie, en gros, de Pont-l'Évêque à Falaise. Là où il travaillait autrefois à défendre la production laitière, eh ben, il ne trouve qu'un territoire à l'abandon, peuplé d'agriculteurs suicidaires et condamné par la politique européenne de Bruxelles. C'est donc, vous l'avez compris, je crois, un précis de décomposition, où il est question du déclin de l'Occident, de l'Union européenne, de la France. Et là, je le cite, ça c'est du Houellebecq pur jus, « Une civilisation meurt juste par lassitude, par dégoût d'elle-même. Que pouvait me proposer la social-démocratie ? Évidemment rien, juste une perpétuation du manque, un appel à l'oubli. J'oubliais le déclin de l'amour, le monde social est une machine à détruire l'amour. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les critiques du masque, de ce nouveau roman de Houellebecq, Jean-Claude ?
Jean-Claude.
Oui, bonsoir, oui, oui.
Jean-Claude, bonsoir.
Oui, oui. Ben, bonsoir, Jérôme. tu es venu finalement ce soir. non, mais tout ce que tu as dit est juste, c'est-à-dire que.
Merci.
Non, mais ce qu'il pointe est assez juste. On peut dire que de prime abord, en tout cas, c'est toujours aussi ironique, c'est toujours aussi mordant, c'est toujours aussi marrant, c'est même hilarant dans la provocation, jusqu'au moment, et c'est souvent à rebours de ce qui est convenable aujourd'hui, jusqu'au moment où on se demande si c'est du lard ou du cochon. Alors, c'est évidemment une de ses astuces. Sauf que, il y a un moment où on se dit, il est en train de se démasquer véritablement, il est en train de s'enfoncer dans quelque chose dont on se demande s'il va en revenir. Alors, il y a aussi toujours les mêmes effets. C'est-à-dire que vous avez toujours les camps naturistes, il y a toujours les mêmes fantasmes. Là, les cibles, c'est bien des énumérés.
Il y a quelques partouzes.
Il y a quelques partouzes. Alors, ces cibles...
Avec des chiens.
Avec des chiens. Pas tout le temps.
Et les, c'est explicite.
Les chiens ne sont pas toujours... oui, il y a des scènes explicites. Alors, en tout cas, ces cibles. Parce que en fait, c'est une série de cibles. Il y a les livres d'Yves Simon, il y a la mode des valises à roulettes, il y a les serveurs de restaurants, il y a les détecteurs de fumée dans les chambres d'hôtel, très important.
J'ai pas vu de Starbucks.
Non. Il y a la ville de Niort. Elle en prend pour son grade. Donc, Paris et ses bobos éco-responsables. La boxe SFR, le maquillage, la butokai, la rioupitude. Les metteurs en scène de théâtre branchés, les acteurs sans carrière, le théâtre subventionné, les critiques du Monde et de Libération. Et il épargne les Inrocks. Et on se demande bien pourquoi. Mais moi, j'ai ma petite idée. Le conformisme de gauche.
Il épargne aussi Laurent Ruquier, hein, tu auras remarqué. Il les gratine pas trop.
Oui, mais quand il était sur le Monde, Libération, tu dis, bah, les Inrocks derrière. Ben non, il fait pas. Blanchot, Christine Angot, les élevages de poulets industriels, les SNCF, le bavardage convenu à la télévision, le circuit esclavagiste de la mondialisation.
Tu vas pas nous faire toute l'émission avec la liste.
Et c'est fini. Et c'est fini. Et les ravages sur les agricultures. Alors, il y a toujours, chez Houellebecq, ses fulgurances sur l'air du temps, c'est toujours des personnages de solitaires, divorcés, séparés. C'est vraiment l'écrivain de la solitude de l'homme contemporain. C'est aussi, et on le dit souvent, un sismographe qui sent les secousses et qui trouve la forme pour les exprimer. Et il se trouve que vers la fin
du
livre...
Ah oui, il y a les gilets jaunes, hein.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors, ah non.
Voilà, c'est ça. Il voit,
si.
Il
ah
voit venir.
Ah
si. Sur l'autoroute. Ah sur l'autoroute.
C'est... Ah non, c'est pas des gilets jaunes.
Si, il voit venir. En tout cas,
il faut pas tout confondre.
Il voit venir une forme de contestation sociale, de désespoir social, dont on a vu une des illustrations récemment. Et c'est ça qui est intéressant chez un créateur, c'est la façon dont il perçoit avant les autres et qu'il met une forme que la réalité va se charger de vérifier. L'ennui avec tout ça, c'est qu'au bout du compte, est-ce que tout ça, ça fait un vrai roman ? Et j'en suis pas tout à fait sûr. Oh.
Alors, Patricia ?
Oh ben, ça fait un magnifique roman. Moi, je trouve qu'effectivement, il sait tout de tout. Il a un don de l'observation, mais inimaginable. Il regarde tout à la télévision, quand il va se balader, y compris dans, je sais pas, dans un centre commercial du 13e, c'est récurrent, là, chez lui. Mais il pointe pile poil ce qu'il faut dire de notre époque. Il y a une chose dont il parle, je sais pas, il me semble pas que tu l'as cité dans ta liste, c'est l'alcool. Parce que notre Florent Claude, faut quand même le faire d'appeler son personnage Florent Claude.
La Brouste,
il boit beaucoup, il boit du Calva, il boit du Grand Marnier. Il est beaucoup dans les restaurants, le bonne dégustation des serveurs, mais c'est un petit bonheur. Ce qu'il dit sur l'amour, c'est désespéré, c'est désespéré en même temps, c'est très juste. Sur la vision qu'ont les hommes de l'amour et la vision qu'ont les femmes. Pour les femmes, l'amour, c'est un tremblement de terre. Pour les hommes, c'est assez inattendu de voir une femme finalement être aussi en l'air à cause de ça, et puis
aussi en l'air,
et puis en fait ben, ça vient petit à petit, et que parce que la femme anticipe, tandis que l'homme, ben, c'est une fois que la femme lui a fait quelque chose de joli que là il s'enthousiasme.
C'est nouveau.
Il y a des choses. Non, mais
c'est là, enfin, c'est là que c'est généralité. Là, c'est là que c'est généralité.
Bon. Ah, c'est pas du tout des généralités. Et l'élevage de poules. À un moment donné, il y a son ancienne petite amie qu'il a beaucoup aimée, qui se retrouve dans un élevage de poules, enfin un élevage industriel où les poules caquettent d'une manière absolument assourdissante et insupportable. Et il dit à un moment donné, Houellebecq, il écrit ça, il dit mais les poules, elles ne demandent aucune pitié. D'ailleurs, elles en sont bien incapables. Elles ne comprennent pas les conditions dans lesquelles on les fait vivre. Et on se dit que finalement, nous, humains, on est peut-être un peu en ce moment comme des poules. On ne comprend pas très bien le monde dans lequel on est en train de vouloir nous faire vivre. Et ça, je trouve quand même qu'il le perçoit très bien. Moi, très honnêtement, j'ai mis du temps. Quand tu disais tout à l'heure, tu parlais d'enlisement. Effectivement, on s'enlise parce qu'une dépression, c'est un enlisement. Mais moi, j'ai mis du temps à redescendre. Je l'ai lu en une journée. Je l'ai commencé un matin, je l'ai fini en fin d'après-midi. Le soir, mais j'étais complètement KO.
Tu as eu du mal à dormir ?
Ah ben, j'ai pas dormi.
Ah ben, c'est marrant parce que moi,
un mois plutôt que de te moquer.
Moi, je l'ai lu en une journée et comme disaient des proches, j'ai repris des nouilles, quoi.
Ah ben, moi, j'ai pas mangé une seule nouille, je peux te dire. En revanche, j'ai bu deux bons verres de vin pour me remettre.
Michel ?
Alors, moi, il y a une chose qui me frappe énormément, c'est de voir à quel point Houellebecq, maintenant, mais c'est, en fait, c'est pas maintenant, c'est depuis toujours, mais là, c'est vraiment très fort, est incroyablement sûr de ce qu'il fait. Il y a une espèce de certitude qui émane de ce livre, qui tient au fait que Houellebecq sait qu'il est le patron, c'est lui qui dit l'esprit du temps, c'est lui qui l'écrit, et c'est fait d'une manière absolument, mais nickel. On a l'impression d'être assis à l'arrière d'une Rolls qui vous conduit sur la route du réalisme social métaphysique tel que Houellebecq l'a inventé et imposé comme une espèce de référence herméneutique pour comprendre son époque, absolument incontournable. Et c'est extrêmement impressionnant de voir ça. Je dois dire, moi qui ne suis pas du tout houellebecquien, si vous voulez, de goût ni de penchant, enfin, mais je reconnais que c'est toujours la même chose. Il cogne toujours sur le même clou.
Et plus, par exemple, ici, dans ce livre, sur l'Europe, qu'il déteste,
oui, parce
que
qu'il,
dans les
il suit le film
livres
en cours,
précédents.
Hein. Oui, mais c'est pas prophétique, contrairement à d'autres livres qui étaient beaucoup plus acides.
Il est au courant de tout. Il suit tout. Il fait son affaire de l'époque où nous sommes avec une espèce de, encore une fois, de certitude quant à la représentation littéraire de tout ça, qui est vraiment bluffante. Enfin, moi, je suis très, très bluffé.
Arnaud.
Oui, il y a plusieurs manières d'appréhender ce livre. D'abord, c'est un grand livre sur les quotas laitiers. Il faut y arriver, hein. Faire un grand livre sur les quotas laitiers, il faut se lever tôt le matin et bosser. Et c'est vrai que c'est Houellebecq le patron. Oui, il a vraiment travaillé. C'est intéressant d'ailleurs. Enfin, tout quand on prend tout dans les détails, par exemple, ce Captorix. Hein, cet antidépresseur qu'il prend, donc évidemment ce nom est inventé, mais Captorix, vous savez que Houellebecq adore la photographie et c'est un procédé pour la macrophotographie, en fait, qui est très utilisé en macrophotographie, donc on photographie les choses de très très près, et c'est exactement ce qu'il fait dans ce roman, c'est qu'il photographie les choses de très très près. C'est-à-dire que la deuxième partie du livre, c'est un véritable road movie dans cette comment il appelle la Suisse normande, c'est magnifique comme expression. Oui. La Suisse normande,
ça n'est pas que la Suisse normande, puisqu'il part du Calvados, enfin de...
Oui, enfin...
Du Calvados, mais bon, mais on va pas rentrer dans le détail.
Ce qui est formidable, c'est qu'on a envie de faire ce trajet, de le refaire, vraiment, parce qu'on voit que tout est vrai. Je suis sûr que le moindre restaurant est vrai,
tout est
existe,
exact. Tout est exact.
C'est d'un réalisme absolu. Personne n'a été, je crois, aussi loin dans la représentation du réel. Et alors, avec quelque chose qui fait qu'il est devenu le patron, c'est que maintenant, c'est une espèce de Louis de Funès de la littérature, Michel Houellebecq. C'est-à-dire que la première partie du livre est hilarante parce qu'il fait toutes ces grimaces stylistiques habituelles. La description du film Zoophile, d'un ton pince sans rire absolu, est juste une page de génie. Il y a une autre page de génie qui fait qu'on ne sait jamais dans quelle France ça se passe, c'est qu'on apprend avec stupéfaction que Laurent Baffie vient de mourir. Et il y a une page, mais qui est sans doute la plus belle du livre, où il y a des émissions nécrologiques sur Laurent Baffie, où les invités, comme dans ce genre d'émission, arrivent tous à la même conclusion, c'était une belle personne. Voilà. Je sais pas comment Laurent Baffie va le prendre, je suis pas sûr, mais c'est quand même une page de génie absolu de la littérature réaliste, hilarante. Et après, c'est un grand livre métaphysique, parce que le sujet, il y a d'un côté les quotas laitiers, ça c'est absolu, et de l'autre, il y a l'amour. Et l'amour au sens le plus chrétien du terme, c'est-à-dire que ce médicament qu'il prend, donc, développe la sérotonine, la molécule du bonheur, parce qu'on voit bien que c'est un grand livre contre la mondialisation heureuse qu'on nous a vendue, que les Minck et autres Attali nous ont vendu. C'est fini, ça sonne le glas de la mondialisation heureuse. On est malheureux comme des pierres. On est obligé de prendre des antidépresseurs qui déclenchent la molécule du bonheur, mais qui en revanche font tomber la libido. C'est la première fois qu'on y a un personnage houellebecquien sans libido. Il n'a plus envie de sexe. Alors ça, chez Houellebecq...
Mais il le dit même, il l'écrit. Hein.
Oui, il l'écrit. Il est devenu impuissant. Il est devenu ce que Soler s'appelle un athée du sexe, là, Houellebecq, et il parle d'amour,
mais
d'amour
chrétien. Avoue que c'est le seul écrivain pour mettre dans le même livre Georges Bataille et Laurent Baffie.
Ouais, hein, c'est énorme. Mais déjà, ça, y arriver et que ça tienne debout, c'est magnifique.
C'est Sérotonine chez Flammarion et c'est donc le nouveau livre de Michel Houellebecq. Occident chez Grasset, un gros roman de 500 pages de Simon Liberati. Ça, tu peux pas l'avoir lu en une journée, Patricia. Liberati qui avait fait le portrait de sa femme et muse, Eva Ionesco. Souvenez-vous dans Eva, laquelle Eva Ionesco signera, je le signale, le 16 janvier. Un film, une jeunesse dorée, dont Simon Liberati a coécrit le scénario. Bref, le héros d'Occident est Alain, un peintre figuratif à l'huile qui vit dans sa maison, c'est au fond de la forêt, avec sa maîtresse Lucardis et qui rejoint souvent ses copains, un peu comme Arnaud Vivian, des noctambules chics dans un hôtel parisien. Et sa vie bascule quand il rencontre Poppé, une jeune israélienne bientôt enceinte, qui lui promet les commandes exceptionnelles d'un grand collectionneur d'art. Il est victime d'un infarctus, il en réchappe, il se réfugie dans la drogue, et puis il part en Andalousie à la recherche d'une jeune fille qu'il a follement aimée, Emina, avec en arrière-fond, d'où le titre, le déclin de l'Occident et la présence de l'extrême droite où Alain a milité autrefois. On n'est pas loin d'une certaine thématique sur le déclin de l'Occident du roman de Houellebecq. Alors ça, par exemple, tu disais que c'était pas assez romanesque pour toi, le Houellebecq, Jean-Claude. Pour toi, l'Occident, il est plus romanesque?
Aïe, il faut que ça tombe sur moi. Il faut que ça tombe sur moi. En fait, il y a trois livres en un. La première partie, qui dure à peu près 200 pages, manque pas d'intérêt et en effet se rapproche un peu de ce que raconte Houellebecq. En effet. Après, il y a une deuxième partie et là, c'est absolument illisible, incompréhensible. C'est une sorte d'exercice de style dans le genre fantastique, baroque. C'est artificiel, c'est plaqué. Ça ruine totalement l'effet de la première partie et ça détruit même l'intérêt du livre. C'est un tunnel de 100 pages obscure, absconce, labyrinthique, complaisante vis-à-vis de l'auteur lui-même, avec des phrases, je vous en ai juste sorti une, mais c'est comme ça pendant 100 pages. Hein. La mort d'une mère avait moins d'importance pour la conscience phale, parce qu'il y a eu un truc phale, phallus, tout ça. Alors, la mort d'une mère avait moins d'importance pour la conscience phale qu'un subtil arrangement de données permettant la construction d'une animation intérieure.
C'est très clair.
C'est clair. Alors tout cela, moi, ça me relevait un peu d'une posture sur un fond de cynisme très travaillé et de frustration. Liberati joue l'artiste, quoi, en gros. Si vous voulez, je vais aller un petit peu plus loin.
Il a été peintre, d'ailleurs. Hein. Oui. Il a peint, il n'a pas simplement écrit avant de...
Si vous voulez, alors, que c'est un sujet qu'il connaît rapport bien. Par rapport à d'autres écrivains dont on parlera tout à l'heure, ça me fait, moi, l'impression quand même d'un petit monde qui n'a rien à dire, ni sur le monde, ni sur la vie, et qui le dit en plus très mal. Et là, ça devient vraiment pénible, parce qu'on voit bien que Liberati s'est quand même donné beaucoup de mal pour accoucher de ça. C'est quand même une purge de 500 pages, avec beaucoup de redites, où on nous explique que la drogue provoque une certaine paranoïa. On se croirait dans une émission d'Ardisson, et c'est aussi vain et c'est aussi superficiel. Alors, dernière chose, Liberati est un auteur qui a la carte, comme on dit. C'est-à-dire que...
Attends, mais Eva était un très beau livre.
Oui, mais il a la carte, et... Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quelques romanciers qui ont pris cette habitude.
Qu'est-ce que tu veux dire, avoir la carte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en dire du mal?
J'y viens, j'explique pourquoi. C'est qu'à la fin, il fait ce que certains romanciers commencent à faire aujourd'hui. Ils font une liste de remerciements. Aujourd'hui, les romanciers remercient des tas de gens. Et lui, il trouve le moyen, et c'est assez malin, de remercier la fine fleur de l'édition. Il cite une demi-douzaine de noms importants de l'édition, et pas seulement de sa maison d'édition. Ce qui est une façon de nous expliquer que la fine fleur de l'édition flatte ce pur sens, une sorte de yearling de Saint-Germain-des-Prés. Et c'est aussi une façon de dire soi-même et de montrer qu'on est inattaquable. Et le pire, c'est que ça marche. C'est-à-dire que la critique marche dans ce que fait Liberati. Donc je dois dire que ce livre-là...
Attends,
est-ce que j'ai bien répondu à ta question?
Non, tu n'as pas vu encore la presse.
Non, mais je veux dire,
ce livre.
Il bénéficie d'une cote au départ.
Qui est une cote, tu veux dire.
Qui est assez forte.
Oui. Arnaud.
Moi, j'ai vu le film de Eva Ionesco.
Oui, moi aussi.
Je l'ai vu, oui, et j'ai trouvé ça assez beau. C'est un film assez beau. Et
je suis prêt à tout défendre, mais pas ça, non.
Si,
moi, le film d'Eva Ionesco.
Oui, j'ai trouvé ça assez beau. Jeunesse dorée.
Oui.
Ah ouais, non.
C'est pathétique.
Non, j'aime beaucoup ce que sont devenus. Il y a un couple là, Ionesco-Liberati, ils ont fait le film ensemble, il a fait le livre Eva, etc. Ils sont en train de devenir une espèce de Thénardier des années 80. C'est eux qui racontent les années 80. Et je trouve ça intéressant, sur les années Palace, etc. Et là aussi, d'une certaine manière, c'est un livre...
Tu les traites de Thénardier, tu trouves que c'est un éloge, toi?
C'est eux qui tiennent effectivement la boutique de souvenirs, quoi. Et à un moment, Liberati parle de sa culture d'antiquaire, mais c'est exactement ça, quoi. Il a une culture d'antiquaire, Liberati, mais c'est très intéressant, hein. Non, mais comme parce qu'il publie aussi des
choses. Oui, il écrit dans la revue
dans la NRF.
Il écrit dans la revue de Michel.
Qui relève, à mon avis, aussi de la culture d'antiquaire des années 80, lorsqu'il parle des bagages, etc.
Dans la grande boutique d'antiquité que tient le Thénardier de la NRF, qui est.
Après, moi,
Michel, la rue de Beaune où il y a les plus.
Ça fait très longtemps que j'avais pas lu un bon roman d'extrême droite, et donc je suis quand même.
Oui, parce que personne n'en parle, ça, mais c'est quand même.
Bah oui, quand même. Donc le titre Occident, on comprend bien que voilà, il a fait partie d'un groupuscule d'extrême droite qui s'appelle Occident, ça parle de ça. Alors ils sont quand même anti-nazis, mais il le dit à un moment. Enfin, les personnages, hein, évidemment, pas tout confondre. C'était marrant. J'étais en train de lire ce livre parce qu'au début il y a une histoire assez belle finalement de paternité, vraie ou fausse. Et j'étais en train de lire et je reçois le coup de téléphone d'un camarade qui me dit « Tu as lu le Liberati ?» Et j'ai dit « Je suis en train, justement. » Et il me dit « Tu sais que tout est vrai dans le livre. Tout est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait un déplacement. » Et effectivement, la figure de Poppée, puisqu'elle s'appelle Poppée, cette israélienne qui a fait son service militaire.
Qui en fait s'appelle Esther.
Chez Tzahal, et son mari, puisqu'elle est donc mariée, et qui a un doute sur la paternité de son enfant. C'est ça la première partie qui est assez belle, avec un moment où le personnage de peintre va à la maternité voir son enfant. On dirait du Bukowski.
Oui, sans savoir si c'est son enfant. Hein.
Oui, sans savoir.
Sans savoir
mais
si c'est
beau cette page-là, on dirait du Bukowski. Il y a quelque chose de.
L'enfant le dégoûte.
C'est fort, mais c'est vrai que quand vous mettez tout ensemble, c'est-à-dire, alors donc c'est des gens qui existent vraiment dans le milieu littéraire, qui sont un petit peu connus comme ça. Donc évidemment, ça a changé ma lecture quand j'ai su les vrais personnages, si vous voulez. Mais à peine, parce que ça reste vraiment un roman d'extrême droite. La deuxième partie, c'est l'histoire d'une Jeanne d'Arc complètement frappadingue. Mais il y a un côté, en même temps, il va puiser chez Artaud pour inventer un langage de fou, etc. Il y a une démesure, mais complètement suspecte. Je veux dire, si vous voyez, israélienne, sale, diablesse, les nazis en Espagne, ça, vous dites, ah oui, non, bah dis donc, depuis Gérard de Villiers, ça fait longtemps que j'avais pas lu un truc aussi, disons, meilleur roman d'extrême droite depuis ADG, quoi, quasiment. Donc, ça, tout ça laisse, comment dire, un drôle de goût, mais je pense que Liberati est un écrivain.
Patricia.
Moi, je trouve que ça se tient admirablement bien. C'est un livre qui, au fond, est assez facile à résumer, qui est difficile quand même à raconter, qui est impossible à partager avec quelqu'un qui ne l'aurait pas encore lu. C'est très sophistiqué, c'est très très littéraire, très ça bien. Part un peu dans tous les sens. la partie, tout ce que disait sur la paternité, la découverte de cet enfant qui commence quand même par du dégoût. Ce petit être qui est sanguinolent presque, il voit sa fille quasiment dans cet état-là au début, ça le dégoûte.
Ce qu'il croit être encore une fois son enfant.
Mais dont il s'occupe quand même beaucoup. Il va promener cet enfant en forêt, cet enfant est merveilleuse parce qu'elle voit les oiseaux arriver dans les arbres, s'envoler des arbres avant son père. Oui, mais il y a très beaux passages là-dessus. Sur l'ascendant d'une femme, cette femme, elle est absolument diabolique. C'est elle, effectivement, qui est dangereuse. C'est elle qui mène toute la première partie du livre. Moi, je trouve que sur la peinture, après, il y a des passages, mais on dirait Murakami. Je vous dis ça uniquement pour vous enquiquiner, parce que la dernière fois, j'étais la seule à défendre le livre de Murakami, qui était donc l'histoire d'un peintre.
Il y a même eu après du courrier, je ne sais pas si tu as écouté, où tu étais.
Oui,
Sainte Patricia.
Bah, exactement, je suis sainte. Ouais. Quand il raconte le moment où la toile se redresse, le moment où tout ça se met à fonctionner, où le flou se précise. Moi, je trouve
tu ne parles pas de l'idéologie du tout du livre, enfin du personnage, je veux dire.
Et l'idéologie, ben, précisément, quand il dit l'Occident tout entier devrait obéir aux anges, effectivement, là, on n'est vraiment pas très loin de Houellebecq, quand ce sont des gens qui se disent, au fond, on a lutté contre le communisme, mais c'est contre le monde moderne qu'on aurait dû lutter. Donc c'est aussi une forme de réflexion sur ce qui a été fait. Et quant au tunnel, tu disais des tunnels sombres, etc. Tunnels blancs. C'est les tunnels, il dit à un moment donné, semblable à ceux qui s'approchent de la mort. Je trouve qu'il y a quelque chose de ça.
Bon.
Il y a death experience.
Combien de verres de vin après la lecture de ce livre?
Je sais plus, mais comme j'avais... Non, je ne sais
pas. C'est la bouteille, je pense.
Mais sûrement, non, un petit verre. Un petit verre.
C'est la bouteille. Michel, donc, on le disait, ils écrivent dans ta... dans ta revue, ça ne t'empêche pas d'avoir un jugement...
Tout à fait.
Tout à fait honnête et intègre et objectif.
Tout à fait, comme tu dis. Je dirais que ce livre est un roman viennois, comme on en écrivait dans les années 30.
Tu ne te mouilles pas, hein.
J'ai à peine commencé ma phrase, j'ai quand même le droit de la finir. Et oui, c'est un roman écrit à la manière, ou qui fait penser, pas à la manière, mais qui se situe dans le même type de problématique que les romans viennois d'Hermann Brod des années 30, où Vienne était l'épicentre du destin européen. Aujourd'hui, il n'y a plus d'épicentre, il n'y a plus d'Europe, mais les questions restent. Et la question Occident, c'est pas seulement un groupuscule fasciste. Enfin, ça me paraît atterrant de réduire le mot à cette dimension. Le vrai sujet de ce livre, et Patricia vient de le dire, c'est toute la question de la représentation, du réel, la question portée par la peinture, et le personnage en effet est un peintre. Et bien sûr que c'est lié à la question du christianisme. C'est le point commun avec le livre de Houellebecq. Les deux livres sont des livres hantés par le christianisme. Ce ne sont pas des livres de conversion du tout, mais ce sont des livres hantés par la question chrétienne. Et le livre de
Simon Liberati.
De Liberati se déplace dans le même type de problème. Alors évidemment, c'est pas du tout la même chose que Houellebecq au plan du style. On est effectivement devant un...
C'est même exactement le contraire.
C'est même pratiquement le contraire. Houellebecq est un froid...
L'un presque sous-écrit et l'autre presque sur-écrit.
Et on peut dire que Liberati est un baroque. Pour le coup, l'expression là, qui est ordinairement utilisée comme un adjectif qui sert à désigner pas grand-chose, là, au contraire, c'est vraiment peut-être le premier livre baroque de l'époque où nous sommes. Et je pense que c'est par là qu'il faut essayer de le lire, même s'il y a effectivement des moments un peu difficiles à franchir. Mais l'ensemble est passionnant, l'ensemble est prenant, et je pense que c'est quelque chose qui doit compter dans la réflexion sur la littérature aujourd'hui, vraiment.
Occident, tu veux ajouter un mot, Jean-Claude?
Non, on a eu l'illustration de ce que j'avais dit.
Occident chez Grasset de Simon Liberati, kiosque de Jean Rouault chez Grasset. Et le kiosque du titre, eh bien, c'est celui rue de Flandre à Paris, où pendant 7 années de 1983 à 90, Jean Rouault, qui venait de ce qu'on appelait encore la Loire inférieure, ça ne nous rajeunit pas, kiosque où il vendait les journaux, une activité à laquelle il a mis un terme lorsque, vous le savez sans doute, en 90, il a publié son premier roman chez Minuit, Les Champs d'honneur, sur la guerre de 14, et qu'il a obtenu, il avait 38 ans, le prix Goncourt. Et c'est depuis ce kiosque, ce balcon sur rue, comme il l'appelle, que Rouault raconte ici le Paris encore populaire de l'époque, se souvient de son copain communiste Norbert, d'un sosie d'Elvis Presley, d'un SDF surnommé Chirac, parce qu'il attendait que la mairie de Paris lui donne un logement, d'un rescapé de la Shoah, qui lisait une gazette en yiddish, ou encore d'un peintre maudit, il y en a beaucoup d'autres. Mais il se souvient aussi de ses ébauches d'apprentis écrivains qui travaillaient sur ce qu'allait être les Champs d'honneur. y compris d'ailleurs les premières lettres qu'il a reçues des éditeurs, qui étaient des lettres de refus. Ce kiosque, qu'est-ce qui vous a touché, ému, intrigué, Michel ?
Alors, moi, je suis très touché par ce livre parce que je suis moi-même un pratiquant du kiosque.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire que le matin, quand je sors, me promener, je vais acheter mon journal chez avec le kiosquier. J'ai encore une
avec ta canne, tu vas acheter ton journal.
Non, j'y vais comme ça, sans canne. Je me repère encore dans l'espace. Donc, ça m'intéressait beaucoup de lire ce livre à cause de ça, parce qu'il se passe des choses. Enfin, il le dit très bien, le kiosque est une sorte d'épicentre aussi, comme on disait de Vienne tout à l'heure. Et c'est le monde vient se réfléchir.
D'autant que, pour parler sérieusement, c'est peut-être ce qui est en train de disparaître et d'ajouter à la lente chute de la presse écrite.
Il n'y a rien de plus triste que d'imaginer la mort d'un kiosque, c'était évident. Alors, le seul problème, c'est que c'est ennuyeux. C'est à la fois touchant, émouvant, mais c'est ennuyeux. Et donc, c'est dommage, quoi, parce que j'aurais bien aimé...
Oui, c'est ballot, oui.
C'est ballot. J'aurais bien aimé vraiment ce livre, ce qui n'est pas le cas, parce que je me suis en même temps ennuyé, à la fois intéressé et ennuyé.
Patricia ?
Je vais te dire, je suis assez d'accord avec toi, il faut lire, disons, 30 pages par 30 pages. Il faut lire à
peu. Ça veut dire quoi, ça ?
Oui. Ça veut dire que...
30 pages par 30 pages ?
Avec un verre de vin blanc.
Avec un verre de vin.
Entre eux. Toutes les 30 pages.
Tu ne te donnes pas, comme ça, tu n'as pas le temps
de t'ennuyer. Patricia va devenir la grande dipsomane de France Inter.
Je trouve que ce serait quand même dommage de laisser un goût amer à ce livre. C'est un livre absolument merveilleux qui, je trouve, est à la frontière, à la lisière de la littérature et de l'histoire, parce que c'est évidemment aussi l'histoire de Paris qu'il y a là-dedans. Il émane une douceur, une tolérance, un intérêt des uns pour les autres absolument extraordinaire. Il y a tous les cas que tu as cités, Jérôme. Il y a aussi une femme, par exemple, qui le week-end vient, elle est en petit tailleur vert pâle, pas un cheveu ne dépasse, on sent qu'elle a mis ses bigoudis le matin pour se refaire sa coiffure. Et évidemment, qu'est-ce qu'elle achète ? Le Figaro. Évidemment, le kiosquier n'est pas d'accord avec elle, ils ont des opinions
Le kiosquier, c'est Jean Rouault, hein.
Oui, et puis il y en a un autre, parce
un
que
autre, oui, qui
lui
remplace.
Vient l'après-midi, voilà. et un autre qui vient le matin. Évidemment, tout ça se dispute, mais sauf que, oui, quand le kiosquier n'est pas là, la dame s'inquiète. Moi, je trouve que c'est un
et puis, c'est presque un dessin de santé.
Et puis, on voit le nombre de titres de journaux qu'il y avait dans ces kiosques. Aujourd'hui,
milliers. Et puis, je ne sais pas ce qui peut fédérer comme ça, mais il y a réellement une vie de quartier grâce à ça. Et sa mère, parce que tu le disais aussi, Jean Rouault parle de lui, sa mère qui lui disait... Il pouvait faire n'importe quoi dans la vie, tout sauf du commerce. Et en fait, tu t'aperçois combien les commerces sont essentiels, sont vitaux.
Et c'est vrai que quand il a eu le prix Goncourt, il est devenu le kiosquier prix Goncourt.
Exactement.
Et tous les caméras, les micros fonçaient vers la rue de Flandre pour voir l'endroit où il avait si longtemps vendu des journaux, Arnaud.
Oui, ça faisait bien une petite trentaine d'années que je n'avais pas lu une ligne de Jean Rouault. Et finalement, c'est comme un personnage de BD qu'on reconnaît à sa houppette et à ses pantalons de golf. C'est donc la Loire inférieure, tu en as parlé. Évidemment, kiosquier, ça, c'était son trésor de guerre. C'est la chose qui vendrait un jour. C'est-à-dire, parce que comme on a tous ce souvenir quand même du kiosquier, un kiosquier pris Goncourt, c'était effarant. C'est comme si soudainement, il y avait quelque chose dans la lutte des classes qui s'était passé à cette époque-là. Tout le monde, mais plus personne n'a parlé du métier du lauréat du prix Goncourt les années suivantes, plus jamais.
Donc c'était un kiosquier qui entrait chez Minuit, qui était la grande maison de Beckett et de
Et donc j'ai retrouvé, Marguerite parce que alors le dernier livre que j'avais lu, c'était son second dernier livre que j'ai lu de Jean Rouault, c'est son second roman, c'est pour dire sa date, sur sa myopie. Et donc là aussi, ça fait partie des traits qu'on retrouve, sa myopie. Et donc il y a un certain nombre de choses, mais en même temps, un petit peu d'ailleurs comme le livre de Liberati, c'est un grand livre sur les années 80 et les années 80 à Paris, avec cette idée de la modernité, de Beaubourg, leur kiosque, c'est un nouveau kiosque Beaubourg, qui se veut futuriste. Le problème, si vous voulez, du livre, c'est pas tellement qu'il est ennuyeux, parce qu'il y a une nostalgie qui opère quand il parle de sa librairie. Moi, je l'ai connue, cette librairie près de Beaubourg, où il a travaillé aussi. On l'a tous connue, cette librairie, et c'est évidemment l'idée de la modernité qu'a instauré à la fois Beaubourg, et puis il parle aussi de la pyramide du Louvre. Ce moment, où le monde bascule dans une pseudo-modernité,
modernité, il en parle très très bien. Et après, quand même, moi j'avais oublié qu'il y avait François et l'Aurore et qu'en réalité c'était le même journal, par exemple. Il y a comme ça des souvenirs qui remontent.
Il y avait encore plusieurs éditions du même.
Et j'ai constaté avec plaisir que il écrivait des phrases beaucoup moins longues qu'il y a 30 ans. Et donc, ça, c'est quand même, il me
semble que ça. Et que l'Aurore, ça te renvoie à Zola, parce que ça aussi il en parle. Donc c'est un moyen de suivre le fil de l'histoire.
Absolument. Et à Pierre Desproges. Jean-Claude.
Ben, c'est le grand livre qu'on attendait de Jean Rouault. C'est-à-dire que c'est effectivement, depuis 30 ans, on attend le jour où il va le faire, mais pas au sens de c'est son trésor de guerre. C'est, on sait qu'un jour ou l'autre.
Alors, si là, il vend un peu les bijoux de famille.
Non,
là.
Ça fait 30 ans qu'on se dit un jour il va le faire et on l'attend. Et vraiment, c'est le retour du grand Jean Rouault. C'est pas du tout un livre ennuyeux. Et puis, vous avez tous oublié de dire une chose, c'est que c'est un livre qui est au bord du précipice. C'est-à-dire que Jean Rouault est obsédé à ce moment-là. Enfin, pas obsédé. Enfin, il est travaillé par l'idée d'avoir une reconnaissance littéraire. Il essaie d'écrire. Ah oui, il espère qu'un jour ça viendra.
J'ai dit en présentation.
Oui, mais tout le livre est.
Il prend des notes. Il fait des petits haïkus.
Bien sûr. D'ailleurs, enfin bon, il attend cette reconnaissance littéraire. Donc. Il faut voir dans quel contexte ça s'inscrit, c'est-à-dire que la vie de kiosquier, c'est on a très froid l'hiver, on est toujours debout, ceux qui ont conçu les kiosques n'ont jamais pensé à ceux qui sont dedans, et en plus, il est victime, tu parlais de la modernité, mais la modernité l'écrase, c'est-à-dire que il est en train d'essayer d'écrire au moment où c'est la mort de tout, c'est la mort du roman, c'est la mort du sujet, c'est la mort de l'histoire, c'est la mort de l'art, et lui essaie d'écrire jusqu'au jour où il lit un retournement de Barthes qui dit « je vais cesser d'être moderne », et là il est complètement stupéfait, c'est-à-dire que ce à quoi il s'est heurté en permanence et au fond de lui, d'un seul coup va se dégager, mais il en veut un peu aussi quand même à ceux qui ont établi ces oukases qui l'empêchaient lui de passer, quoi. Et je trouve que, en effet, ce petit théâtre qu'est le kiosque où il aperçoit le monde à travers la petite lucarne de son petit comptoir est absolument merveilleux. Moi, je trouve pas ça du tout ennuyeux. Je trouve que c'est un livre très, très beau,
est-ce
très
que
fort.
Tu achètes un journal chez le kiosque?
Oui, bien sûr. Mais non. Bah, écoute, oui. Et en effet, c'est la fin programmée.
Sortir kiosque aujourd'hui, oui. Quand on sait le parc des kiosques qui va se rétrécissant jusqu'à disparaître même dans des grandes villes, hein. Oui. Évidemment, ça a un sens symbolique encore plus fort, je trouve.
Je voudrais dire qu'on a aussi retrouver ce qui avait été le grand plaisir de la découverte de Jean Rouault, c'est-à-dire des évocations, des récits. Évidemment, le morceau de bravoure des Chants d'honneur avait été la balade sous la pluie dans la deux chevaux du grand-père en Loire-Inférieure. On retrouve ça dans le livre. À un moment, il y a une description sur une page d'Interville. C'est absolument hilarant et à sa façon. Et moi, j'aime beaucoup la façon dont il tire les phrases, dont il met des incidents à l'intérieur. Je trouve que c'est un très très beau livre. Je suis content.
Je sais pas, en revanche, comment ça va parler à des jeunes lecteurs. Je suis pas convaincu.
En tout cas, moi, je suis content du grand retour du grand Jean Rouault. Voilà.
Kiosque de Jean Rouault, c'est chez Grasset. Le diable emporte le fils rebelle au Mercure de France. Un bref roman de Gilles Leroy, prix Goncourt 2007, encore un prix Goncourt, mais il n'était pas kiosqué, pour Alabama Song, qui a aussi, d'ailleurs, Gilles Leroy, exprimé sa passion pour les États-Unis dans Zola Jackson, Nina Simone Roman ou encore Le Monde, selon Billy Boy. Ici, une famille vit dans un bungalow sur une ancienne friche dans une ville du Wisconsin. La famille Kennedy, la mère Lorraine, très pieuse, le père Fred, très désabusé, et leurs quatre fils, dont l'aîné, Adam, 15 ans, sort de la prison pour mineur. Sa mère l'appelle l'escroc, elle vient d'apprendre. Ce dont le père se doutait, qu'Adam est gay, il a des pratiques dépravées, et il fréquente les vestiaires de l'équipe de basket. Le fils disparaît après avoir traité sa mère de sale pute toxico, ce qui ne se fait pas. Ah, tu es d'accord?
Non, mais dire de son fils l'escroc, absolument. Ça ne se fait pas non plus.
Non, ni sale pute toxico. Une mère donc qui raconte en flashback successif comment elle a toujours voulu protéger ses trois autres fils, dont les jumeaux, de là, je cite, la contamination d'Adam, un prénom que Lorraine refuse de prononcer, contrairement au père, qui a plutôt de la tendresse pour son fils, avec des dialogues qui m'ont fait parfois penser à certaines relations des personnages dans les pièces de Tennessee Williams. Arnaud.
Heureusement qu'ils disent en quatrième de couverture que ça se passe dans le Wisconsin, parce que lorsqu'on regarde de près le texte, alors j'ai fait ça attentivement, effectivement, il est bien question d'une ville qui s'appelle Racine et qui existe dans le Wisconsin, et de Manitou Falls, qui existe aussi dans le Wisconsin, mais ce qui est très étrange, c'est d'abord, disons, on peut pas dire que Gilles Leroy soit un grand amateur de description, donc il y en a très très peu dans le livre. Enfin, à un moment, il est question d'une ancienne usine Michelin. Je savais pas que Michelin s'était aussi bien implanté dans le Wisconsin, quoi. J'étais un peu surpris. Et il parle aussi d'un terrain de football qui, à mon avis, est assez rare là aussi dans le Wisconsin. Donc on est comme ça dans une espèce
d'Amérique.
Ah si, bah
le joue au foot aussi.
Il y a peut-être une usine Michelin en Amérique. Il y a plein d'endroits qui portent des...
Franchement, noms. On est dans une espèce d'Amérique de pacotille. Et la manière dont parle le personnage, cette femme, cette mère, c'est pareil. À la fois, on parle de weed... On parle de gens qui sont totalement fuckés, c'est-à-dire c'est les deux derniers mots du roman. On parle de, on drop quelqu'un à un carrefour, et puis en même temps vous avez un personnage qui tortore. Alors là, tortoré, je me suis dit, je connaissais pas. Je suis allé voir dans le dictionnaire, donc vous connaissez tortoré
Non.
Non, voilà. Donc visiblement, ça veut dire bouffer, enfin c'est un terme argotique pour dire manger, etc. Donc c'est pareil, il n'y a aucun... Je veux dire, les gens, le personnage parle n'importe comment. C'est-à-dire, il dit à la fois totalement fucké, tortoré, tout ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas le projet. J'essaye de comprendre le projet... Je ne le vois pas. C'est une espèce de monologue. Toi, tu dis Tennessee William, on pourrait parler
des dialogues.
De Faulkner, de supermarché. Enfin, tout ça est aberrant, laid, très mal écrit, sans intérêt.
Patricia ?
Ça a beaucoup d'intérêt. Le monde, évidemment, qu'il décrit est un monde très laid. À certains moments, on se croirait dans un film aussi des frères Dardenne. C'est cette répétition du malheur. De la déglingue, cette mère qui, malgré tout, c'est une femme intelligente, elle est vaillante. Mais
de l'homophobie aussi.
De l'homophobie, mais à un moment donné, tu te dis que la haine, ça peut être, au fond, un lien aussi fort que l'amour. Elle le dit, d'ailleurs, elle est détachée d'elle-même. C'est un milieu dans lequel il n'y a pas de mots pour exprimer les choses. Donc, ils disent les choses comme ils peuvent. Les seuls moments où elle est bien, c'est quand elle se fait du feu et qu'elle est à côté de ce feu quand il y a encore du bois pour en faire, parce qu'au moins, le feu ne la juge pas. Et l'autre moment où elle a la paix, c'est la messe. Une heure par semaine, il n'y a pas un mot méchant et pas une crasse. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de malédiction qui pèse sur ces familles pauvres et qui est un enfermement social, mais implacable. Et moi, ça m'a énormément touchée.
Il paraît qu'après, tu as pris deux cognacs.
J'ai horreur du cognac. Ne me fais jamais boire du cognac, j'ai horreur de ça. Non, c'est une claque, hein, ce livre.
Jean-Claude ?
C'est-à-dire ça commence quand même par une scène qui est extrêmement forte. Enfin, l'autodafé où elle brûle tout ce qui renvoie à son fils, que ce s'agisse des vêtements, qu'il s'agisse des écrits, qu'il s'agisse des photos, qu'il s'agisse de tout ça, c'est quand même un geste extrêmement fort, et elle le vit avec à la fois une culpabilité et un détachement, une culpabilité parce qu'elle sent quand même qu'une fois qu'elle aura fait table rase et que son fils n'existera plus du tout pour elle, et puis il a disparu, on ne sait jamais si on le retrouvera, elle sait aussi qu'elle va le payer toute sa vie. Et pourtant, elle trouve une sorte de réconfort à faire ça. Déjà, cette scène d'ouverture, elle est forte. Je comprends pas, Arnaud, que t'aies pas été sensible à ce roman sur la mondialisation, à ce roman sur le lumpen prolétariat de ces gens qui sont précaires, qui sont complètement ballottés par le bon vouloir du capitalisme. C'est des gens qui traînent ad vitam aeternam, une sorte de déterminisme social dont rien ne les en sortira. Oh. Excuse-moi, ça mérite quand même un tout petit peu plus d'attention que tu ne le fais, en tout cas beaucoup plus que par rapport à Liberati. Voilà.
C'est pas un roman d'extrême droite, effectivement, mais c'est pas non plus un roman d'extrême gauche, là.
C'est un roman sur...
Au mieux, ça parle de cette Amérique pauvre, white trash, comme on dit, qui a, paraît-il, voté Donald Trump, mais
il n'y a pas que l'Amérique, hein,
C'est un roman.
Mais là, ça se passe aux États-Unis.
Donc... C'est un roman sur la mondialisation avec le spectre, qui est en effet réel.
Est-ce que tu as vu la mondialisation dans ce roman?
Tu parlais de Michelin, excuse-moi, il s'agit bien de ça.
L'ancienne usine Michelin, mais c'est tout, je veux dire, c'est trois
mots.
Non, ça fait pas
non, c'est pas l'ancienne usine Michelin. Mais non, attends, tu peux traverser des livres sans t'arrêter, tu peux le faire, mais tu peux aussi t'arrêter à ce que l'écrivain écrit. C'est-à-dire que quand il parle de Michelin, c'est un archétype de toutes ces usines qui n'arrêtent pas de se délocaliser, d'aller ailleurs et d'en avoir rien à faire des travailleurs.
Alors,
excuse-moi, tu vas peut-être plus au kiosque, mais enfin, c'est quand même rempli tous les jours de ça et de cette classe sociale dont on peut ne pas regarder.
Mais ça parle de deux choses.
Ça parle du déterminisme de classe qui t'enferme.
Mais si Gilles Leroy parlait de déterminisme de classe, ça serait depuis des années.
Mais moi, j'ai lu la même chose que Jean-Claude.
Jérôme Leroy, il parle de déterminisme de classe.
Et il dit une chose, c'est que l'avenir n'est pas pour ces gens-là. Voilà. Et
Michel ?
Écoutez, moi, les choses se sont plutôt bien passées avec ce livre. Non, mais c'est vrai. Très honnêtement, j'ai trouvé... Tiens, un livre de Gilles Leroy. Tiens, pourquoi pas. Et ça s'est plutôt bien passé. Il y a une... La dame qui parle de Tortor, là, dont tu parlais tout à l'heure, Arnaud, elle n'a pas de dictionnaire. C'est quelqu'un qui se débrouille avec ses mots à elle. Donc, c'est pas forcément... C'est pas Gilles Leroy.
Imagine les gens qui disent Tortor et totalement fucké en même temps. Tu les connais, ces gens-là?
Non, moi, personnellement, je ne les connais pas. Mais je fais confiance.
Je pense qu'ils n'existent pas.
Non, non, mais il faut quand même tenir compte de ça. Il y a quand même une distinction entre le personnage et l'auteur.
Tu serais parfois surpris par l'invention langagière du peuple, mais faut-il encore le connaître?
Toi, tu le connais?
Ah oui.
Bien sûr.
Oui.
Le diable emporte le fils rebelle et les critiques du masque. Et c'est au Mercure de France, le livre de Gilles Leroy. Allez, rapidement, parce que le temps passe trop vite, j'ai inscrit aussi un livre de l'ami de Patricia, qui est Elena Ferrante, en même temps que paraît en folio L'enfant perdu, le quatrième et dernier tome de l'ami prodigieuse d'Elena Ferrante. Donc Gallimard publie Frantumalia, sous-titré L'écriture et ma vie, et traduit par Nathalie Bauer, la toujours mystérieuse, invisible, introuvable Elena Ferrante, puisqu'elle ne révèle toujours pas son identité. Rassemble ici un peu toute l'histoire de sa tétralogie. Il y a ses correspondances, ses lettres à son éditeur, des entretiens par mail, des textes très variés. Ça va de Elsa Morante, sur Elsa Morante, aussi bien que sur Madame Bovary. Il est très bon, d'ailleurs, le texte sur Madame Bovary.
Des réponses. La France, c'est d'abord Yonville, l'abbaye, c'est merveilleux.
Absolument lapidaire à des demandes d'interview. Ainsi, un responsable de la République a écrit un livre qu'il vaut la peine de lire et sorti. Je pense que les véritables lectrices et lecteurs se moquent bien de savoir qui l'a écrit. Et elle ajoute, moi j'adore cette phrase, même Tolstoï est une ombre insignifiante lorsqu'il se promène en compagnie d'Anna Karénine. Et puis elle explique le mot que moi je ne connaissais pas, peut-être tu connaissais toi, Patricia,
de
Frantumalia, qui est dans le dialecte napolitain.
Ah, c'est pas le tortor.
Qui veut dire la confusion des sentiments, une sorte de grande mélancolie.
C'est mental et physique. Hein.
Voilà, donc on a tous les secrets de la fabrication de l'amie prodigieuse, mais rien de plus finalement sur la mystérieuse, je le disais, Elena Ferrante. Quelques minutes, mais vraiment quelques minutes, pour me dire s'il faut le lire ou pas, Michel.
Alors moi, ça va être vite fait. J'ai pas eu le temps. J'étais trop pris par le tortor. Et j'ai pas eu le temps d'ouvrir ce livre, donc je passe mon tour.
Jean-Claude.
Oui, il faut absolument le lire, parce que c'est une contribution passionnante et riche sur l'expérience de la création de littéraire et de l'art du roman. Moi, j'ai adoré ça. Je suis infiniment reconnaissant à Elena Ferrante de ne pas nous révéler qui elle est. Moi, je n'ai pas envie de le savoir, parce que je découvre, je le savais, mais je vois son argumentation. Dès 91, dès son premier livre, elle prévient ses éditeurs, jamais je n'apparaîtrai, je ne ferai jamais de promo, j'irai jamais à de colloque, j'irai jamais...
Elle a tenu parole, hein ?
Oui, exactement. Et elle a tenu parole, et aujourd'hui, c'est tellement à contre-courant, et je trouve que c'est un livre passionnant, parce que précisément dans sa diversité d'approches et de réponses et tout ça, on a là quelque chose qui est, qu'est-ce que c'est que d'écrire un roman ? Pourquoi c'est une expérience aussi forte, même corporelle ? Qu'est-ce que ça prend de soi ? Qu'est-ce qui fait qu'on devient différent quand on écrit et qu'on devient différent dès qu'on cesse d'écrire ? Enfin, moi, je vous le recommande vraiment, la question
c'est
que je pose...
C'est aussi sur l'art de se dissimuler, d'ailleurs.
Oui, oui, mais je trouve ça... Pourquoi devrait-elle se livrer aux médias ?
Ah non, mais je suis tout à fait d'accord, mais...
C'est pas l'art de se dissimuler, c'est l'art de ne pas devenir un personnage.
C'est ça
oui. Qu'elle ne veut pas... Ah, c'est pas la même chose que de
se dissimuler aux yeux des médias.
Oui,
et aux yeux
mais elle
des...
incrimine d'ailleurs les médias en disant
très violemment,
que...
Même.
Effectivement, quand tu vois avec Houellebecq, moi, tu le vois même en train de te lire son livre. Effectivement, bien sûr. Mais je trouve que ce livre est absolument extraordinaire. Elle donne à un moment donné un modèle...
Ça y est, t'es réconcilié avec Elena
Ferrante.
T'en as dit des horreurs au masque.
Pour,
hein.
pour un livre qui m'avait barbé. Mais là, je trouve ça absolument passionnant.
Mais tu n'avais pas assez bu ce jour-là.
Elle porte l'écriture à un niveau d'incandescence absolument inouï. Elle est d'une exigence, d'une radicalité, d'une inquiétude quand elle écrit. Elle ne sait jamais si ce qu'elle a écrit est bon. Quand elle se relit entièrement, elle ne reconnaît pas ce qu'elle a relu par petits bouts. Elle se dit, mais c'est pas ça, en fait, etc. C'est
passionnant. Il y a toute la correspondance aussi sur l'adaptation. Alors à là, l'écran de ces...
C'est d'une finesse, c'est très technique.
C'est très bien fait. Hein.
Et on découvre qu'elle a toujours été adaptée au cinéma.
Absolument, Arnaud.
C'est comme encore aujourd'hui, autour de moi, des gens considèrent que Elena Ferrante, mais à mon avis, ils ne l'ont pas lu, n'est pas un véritable écrivain, ou du moins, c'est pas un écrivain intéressant. Là, elle fait vraiment la démonstration
absolument.
Du contraire. On voit véritablement que c'est un écrivain, et un grand écrivain, et qui a pris cette décision, donc immédiatement, de ne pas apparaître, dont sur laquelle elle revient, non pas qu'elle change d'avis, mais elle l'explique de plusieurs positions, d'ailleurs au fur et à mesure de son œuvre. Et ce qu'on voit, donc c'est justement c'est le fait qu'elle a été immédiatement adaptée au cinéma. Et ce qui m'avait frappé en lisant L'amie prodigieuse, c'est qu'on avait le sentiment d'une écriture cinématographique. Et qu'il y a, d'ailleurs, la série vient de sortir, L'amie prodigieuse, mais qu'il suffisait de prendre le livre et de filmer, tout était là, quoi. Et donc on voit bien ce rapport qu'elle entretient avec le cinéma, avec les
scénariste, elle lit les scénarios, elle les commente, et puis il y a une formidable relation avec son éditeur, enfin son éditrice. Là, on voit aussi un rapport entre une éditrice et une écrivaine qui est absolument, je trouve, merveilleux. C'est rare que, finalement, on voit ce rapport-là au travail.
Et c'est aussi un livre d'une très grande érudition, parce qu'on parle toujours de la romancière, mais on voit qu'elle a beaucoup, beaucoup lu Frantumalia. C'est chez Gallimard, et c'est donc un recueil, un gros recueil des textes d'Elena Ferrante. Allez, je le disais en début d'émission, presque 500 nouveaux livres. Eh bien, voici venu l'heure des conseils. Et on compte sur vous pour nous en donner des bons. On va commencer avec Patricia.
Alors, il est de la rentrée dernière.
Ça, c'est pas du jeu, longtemps.
C'était en septembre. Ah non, mais je regrette tellement qu'on n'en ait pas plus.
Bah oui, mais c'est pas du jeu quand même.
C'est de Démosthène, le code Jupiter. Enfin, sauf que maintenant, c'est vraiment d'actualité, je t'assure. Et si vous n'êtes pas engueulé au pied du sapin, offrez ce livre autour de vous, vous allez vous engueuler autour de la galette. Ça dénonce. Démosthène, c'est évidemment un pseudo, mais maintenant, on
sait. Ah bon ?
C'est Dany Robert Dufour qui a pris.
Pseudo.
Non, mais parce qu'au départ. Au départ, bah, ça aurait pu être une édition tout à coup d'un texte inconnu de Démosthène. Non, je plaisante, mais...
Le code Jupiter
il a, depuis les Gilets jaunes, il accepte de dire son nom, donc c'est donc un philosophe qui prend le pseudo de Démosthène parce qu'il a dénoncé l'oubli, c'est-à-dire la démesure. Et il parle évidemment de la démesure d'Emmanuel Macron. Je vous laisse découvrir après, on est d'accord ou pas d'accord, mais il le fait vraiment de façon extrêmement étayée en donnant une foultitude de détails, y compris dans sa vie d'avant président, c'est-à-dire quand il travaillait dans une banque. Et il dit que ces dérapages ne sont pas du tout des incidents et que c'est...
Mais il est quoi, Démosthène ? Il est banquier, non ?
Ah non, il est philosophe.
Il est philosophe.
Il est philosophe, le monsieur. Philosophie de la ruse et de la démesure, c'est aux éditions des Équateurs.
Donc, ça n'est pas un roman de la rentrée.
Pas un roman, c'est... Voilà. On peut presque dire que c'est un pamphlet.
Arnaud.
Je ne connais peut-être pas le peuple, mais j'ai lu le premier roman. J'ai lu le premier roman d'un garçon de café de 56 ans qui travaille d'ailleurs pas très loin dans une brasserie de la rue de Rennes. Et alors, c'est une histoire merveilleuse.
Ah, c'est le livre chez Léo Cher, c'est celui-là ?
Oui, Nos Zones de Bruno Guay chez Léo Cher.
Qui est en plus galeriste, enfin, qui s'occupe.
Oui, qui a été. Alors, il a été galeriste, mais enfin, il est garçon de café depuis maintenant des années. Et il a toujours écrit. Il dit : je suis rentré en littérature comme on rentre en religion. Sauf qu'il ne publiait pas, il ne voulait pas publier. Et là, finalement, donc à 56 ans, je l'ai rencontré, je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi, soudainement, il décidait de publier. Il dit, écoutez, ma mère a 82 ans, mes enfants sont grands, mais ils ne me prennent pas très au sérieux. Donc voilà. Et donc, Nos Zones, c'est un court roman de 120 pages, donc son premier roman, enfin le premier qu'il édite, parce qu'il en a sous le coude, hein. Il en a écrit d'autres.
Il en a sous le coude pour un
garçon de café. Et c'est une histoire totalement classique d'expédition dans un territoire, sans doute en Ukraine, qui a été laminé par une explosion atomique. Et donc, on envoie une expédition à la fois de scientifiques et de militaires pour voir ce qui reste de la faune, de la flore et peut-être de l'humanité. C'est vraiment un grand roman dans le style anthropocénique. Qui, à mon avis, là, on va avoir avec Tristan Garcia, il y a un véritable parangon du roman anthropocénique. Là,
oh là, anthropocénique, parangon en deux secondes. Là,
voilà. Et donc, voilà.
L'émission se termine.
Lisez Le Peuple, lisez Les Kiosquiers, lisez Les Garçons de Café.
C'est chez Léo Cher, le titre, c'est
Nos Zones.
Nos Zones. Mon conseil, très rapidement, parce que l'émission se termine, c'est L'Explosion de la Tortue, du formidable Éric Chevillard. C'est chez Minuit, où on découvre comment et pourquoi la mort d'une insignifiante petite tortue va bouleverser la vie du narrateur, lequel est un spécialiste d'un prétendu écrivain oublié du 19e, qui est Louis-Constantin Nova. C'est drôle, c'est absurde, et c'est toujours, comme dans tous les livres de Chevillard, formidablement écrit. Le conseil de Jean-Claude, en quelques secondes.
C'est la saison 9 de quelque chose qui est aussi addictif qu'une série. C'est Emmanuel le Magnifique de Patrick Rambaud, qui chronique... toujours dans son style grand siècle, l'arrivée d'Emmanuel Macron, avec toujours le même style. Donc, et il en fait un héros qui est qu'à la fois de Julien Sorel et de Frédéric Moreau, c'est-à-dire de ces jeunes ambitieux qui séduisaient une femme mariée et en devenaient amoureux à s'en rendre malade. Il y a une page d'anthologie sur la rencontre du jeune prince avec la baronne d'Ozières.
Je t'arrête parce qu'on en parlera dans le prochain Masque et la Plume consacré au livre.
Et la merveille pour moi, la merveille absolue, c'est 100 petites
Michel.
Pages de Gabriela Zalapi. Le livre s'appelle Antonia, il paraît aux éditions Zoé. On est à la fois à Marianne Bad et dans le Guépard, une jeune
c'est un
femme.
Faux journal intime.
Un faux journal, c'est
magnifique.
Admirable, c'est admirable.
Avec même des petites photos.
Oui, tout à fait.
Qui sont issues, je pense, d'une collection.
C'est la merveille de la rentrée, ça.
Absolument, je suis d'accord avec toi.
Mais aussi Patrick Rambaud.
Tous ces quoi, mais absolument, mais on va en reparler très longuement. Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, France Inter. www.radiomaria.fr. Merci beaucoup, Patricia, Martin, Arnaud, Vivian, Jean-Claude Raspienjas, Michel Crépu, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Sélam, et ce soir au théâtre de l'Alliance française à la technique. Et je les remercie, Stéphane Desmond, Julien Bourdet, Tanguy Le Corneau. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Et vous notez, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume aura lieu le jeudi 10 janvier dans ce même théâtre de l'Alliance française au 101 boulevard Raspail dans le 6e à Paris pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de films à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.